En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 14 mai 2008, Éric Orsenna de l'Académie française intervenait à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris dans le cadre d'un séminaire national organisé pour une réflexion autour de l'enseignement intégré de la science et de la technologie au collège. Canal Académie vous propose d'écouter son discours qui soulevait les problèmes liés au climat.
Je suis, je crois, un bon gibier pour parler devant vous parce que je ne connais absolument rien aux sciences. Mais j'ai une passion croissante pour les sciences. J'incarne, je crois, la possibilité, la légitimité d'avoir une passion pour les sciences et d'y trouver un immense plaisir. Je navigue depuis que je suis tout petit et j'ai décidé un beau jour de connaître autre chose que la micro-météo qui permet de ne pas être trop nul dans les régates et donc savoir comment tout ça, ça bouge. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre sur le Gulf Stream. Donc j'ai pris des cours à l'Université de Bretagne occidentale et j'ai commencé à travailler sur les petits cahiers Clairefontaine. Et j'avais la chance, en échange de différents soutiens vis-à-vis de la presse et d'écriture, de travailler avec un professeur formidable. Et j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à poser des questions de plus en plus emmerdantes. Et donc, mon professeur a commencé à dire aux autres, Éric, il travaille, il ne comprend pas vite, mais quand il pose des questions, elles sont vraiment difficiles. Donc, la rumeur s'est un peu répandue en disant, on peut le recevoir, il ne racontera pas n'importe quoi, mais on va être obligé de remettre en cause un peu nos certitudes. Et on a ancré cette relation qui ne cesse de s'étendre sur une base très simple. Éric sait rien, mais en gros, il sait raconter. Nous savons, nous ne savons pas raconter. Donc, il corrige, crayon à la main, ce que je fais, ce qui donne des scènes extraordinaires, puisque souvent, ils disent, entre eux, si tu laisses raconter ça, Éric, je quitte le club et je te dénonce. Parce que, vous voyez, c'est la métaphore. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut raconter? Non, là, est-ce que je peux? Ils me disent oui. Est-ce que je peux? Ils me disent oui. Est-ce que je peux encore? Ah non, là, t'as pas le droit, là, ça devient complètement faux. Mais l'étape d'avant, c'était vrai. Et alors, ils s'engueulent entre eux. Donc, je vois passer les scuds, les machins, donc c'est assez marrant. Bref, ça a changé ma vie. Pour une raison très simple. Et ça, je pense que, comme je suis sans arrêt dans les classes, parce que je suis d'abord un pédago, quand on n'en sait plus sur la science, on continue d'apprendre à lire. Et la phrase de Goethe à plus de 80 ans et 10 ans, « Je n'ai pas cessé d'apprendre à lire », peut se comprendre de deux manières. Soit il lisait des livres, banal, soit il lisait en dehors des livres. Et Goethe lisait en dehors des livres. Et moi, j'ai eu cette immense satisfaction. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de micro du tout. Ça prouve que je suis vraiment dans le milieu magico-scientifique. Immense satisfaction, c'est d'au lieu de voir cette tache bleue immense sur les cartes entre l'Europe et l'Afrique et puis les Amériques, je savais comment ça fonctionnait. Donc au lieu de voir du bleu, je savais lire. Et ça n'arrête pas. Et je me dis que, ayant fait de l'économie et du droit pour commencer, je me suis trompé. Ce que j'aurais dû faire, c'est, par exemple, agro. Et donc, je me dis qu'encore 2-3 ans, et je vais être au niveau de l'École nationale d'agronomie. Et ça progresse. Et ça progresse parce que, justement, j'ai décidé de travailler sur l'eau. Pourquoi l'eau? Je reviens un tout petit peu en arrière. Il se trouve que je suis dans 47, j'avais 15 ans, 62. Le moment du début, on se demande ce qu'on va faire. 62, c'est en gros, c'est l'indépendance de l'Algérie, puis c'est l'indépendance d'autres pays. Et tous ces pays me semblait devoir dépendre des matières premières. Donc je me suis dit, je vais travailler sur les matières premières. Donc j'ai travaillé sur l'économie des matières premières, et puis j'ai été un relativement bon spécialiste des matières premières. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il m'a demandé ce qui m'intéressait, j'ai dit le développement, et évidemment les matières premières. Donc au cabinet de Jean-Pierre Cotte, j'étais en charge notamment de tous les accords de produits, café, cacao, sucre, toutes ces questions-là.
Et j'ai continué. Quand j'ai apporté une sorte de monstre de 1000 pages à mon éditeur, il m'a dit « De quoi ça traite ? Du caoutchouc ?» Il m'a dit « Écoute, bon, on va le publier parce que on t'aime bien. Enfin, n'espère rien. » Donc on a retravaillé et je crois que... Enfin, c'est d'ailleurs le deuxième livre traitant sur les matières premières qui a eu Goncourt. Donc, en racontant des histoires. Alors, pourquoi les matières premières ? Et j'en viendrai à l'eau, j'aime les digressions, mais enfin, j'essaye de revenir un peu au sujet. Parce que les matières premières, c'est toujours des histoires. C'est toujours de l'histoire et c'est toujours des histoires. Chaque matière première est un univers. Chaque matière première est un univers avec ses personnages, avec ses tensions, avec ses guerres, avec sa géographie, avec ses inventions. Et que quand vous racontez l'histoire d'une matière première, vous avez un angle formidable pour raconter l'histoire de la planète. Et il suffit que vous choisissiez une matière première pour qu'on vous dise « Pourquoi tu n'as pas raconté une autre matière première ?» Ce qui est bon signe. Hein ? On vous donne deux cravates, vous en mettez une et vous avez toujours quelqu'un qui dit « Pourquoi tu n'aimes pas l'autre ?» Écoutez ça c'est... Vous n'avez pas vu ça, mais c'est en général, ça peut vous arriver dans votre famille. Deux, vous en mettez une, ça, voilà, c'est une sorte de... Voilà. Et donc, quand on me dit, j'ai fait une histoire sur le coton. Et on m'a dit, bon, t'as fait le coton, c'est très bien, c'est vrai que ça peut raconter la mondialisation. J'ai fait un livre sur le coton, pourquoi ? Parce que il y avait eu l'échec des négociations de l'Organisation mondiale du commerce à Cancun, et je me suis dit, pourquoi ? Et le prétexte de la rupture, c'était sur le coton. Donc je me suis promené dans le monde entier pour voir quelles étaient les questions du coton. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait le fer ? C'est vrai que, imaginez l'histoire du fer, la planète, à partir de l'âge de fer jusqu'à ArcelorMittal. Vous avez un axe énorme. Regardez si vous faites l'histoire du blé depuis l'Antiquité. Les batailles, les transports, la brutale montée du blé aujourd'hui, les émeutes de la faim, aujourd'hui, et de la montée des prix, etc. Donc vous pouvez toujours trouver un point de vue pour raconter l'histoire de la planète et l'histoire des échanges entre les hommes et des guerres entre les hommes. Alors pourquoi l'eau ? Évidemment, il faut un culot énorme pour faire de l'eau, à côté des immenses spécialistes et de la diversité incroyable de ce qui a été écrit sur l'eau. Mais l'eau, pour moi, c'était évidemment la matière première des matières premières, et que l'âge venant, il fallait s'affronter quand même au plus difficile, et que ce que je cherchais dans l'eau était de répondre à des tas de questions qui sont des questions d'aujourd'hui, et j'aime pas trop les dossiers en tant que tels, et j'aime trouver, encore une fois, toujours essayer de trouver les histoires. Alors regardez rapidement ce que sont les questions auxquelles, si on réussit son affaire, on peut répondre en se promenant au fil de l'eau. Premièrement, eau et gratuité. Qu'est-ce que la gratuité aujourd'hui ? Donc, à partir de l'eau, il y a aussi les questions de l'Internet. Il y a les questions des droits d'auteur qui m'intéressent directement, et mes enfants aussi. Il y a des tas de gens pour qui l'eau doit être gratuite. Question, qu'est-ce que c'est la gratuité ? Eau et relations privées-publiques. Vous savez que là, dans la distribution de l'eau, vous avez des régies municipales, c'est-à-dire la municipalité garde la maîtrise de la distribution et souvent de la production, et puis il y a des concessions. Vous êtes dans l'univers privé. Donc vous avez aussi une question extrêmement intéressante, de l'articulation entre la sphère publique et la sphère privée. Autre question, eau et réchauffement climatique. Et la merveille de ma situation, franchement, c'est de pouvoir prendre des cours particuliers sur telle ou telle question scientifique. Je me souviens d'un jour où je venais d'être élu à l'Académie française et on avait une visite du musée Guimet. Et quelqu'un en face de moi me dit « Écoutez, je suis content de vous rencontrer parce que nous passons nos vacances l'un en face de l'autre. » Je dis « Je suis très honoré, monsieur. » Et donc, ce que je polis, et il me raconte des choses. Et il me dit, vous devriez venir à la maison, je crois que la maison de ma grand-mère vous intéresserait. Donc je discute, mais oui, mais c'est très intéressant. Et puis je dis des bêtises polies, comme d'habitude, en disant, mais oui, les anciens ont toujours beaucoup à nous apprendre. Et brutalement, en mettant enfin ensemble les différents indices qu'il m'avait donnés, je m'aperçois que la dite grand-mère, c'était Marie Curie, c'était Pierre Joliot, et que ce Pierre Joliot, il me dit, écoutez, j'ai appris que vous intéressiez au jardin, si vous voulez savoir deux, trois petites choses sur la photosynthèse, demandez-moi. Genre, un des spécialistes mondiaux de la photosynthèse. Donc, et c'est sans arrêt comme ça. Et j'ai pris pour ce livre sur l'eau, évidemment, des leçons de pluie. Qu'est-ce que la pluie? Et donc, ces questions-là, imaginez d'avoir une sorte d'amphi à disposition, mais il suffit de demander. Parce que s'il me demande des trucs de mon boulot, évidemment, je suis absolument ravi de les raconter. Et souvent, je me regarde devant la glace en brasant, et comme je n'ai aucune ambition présidentielle, je me dis, mais pourquoi on ne me demande pas plus souvent des questions, alors je suis tellement intéressant comme garçon? Donc, le réchauffement climatique et l'eau, c'est quand même exceptionnel de voir ce qui est en train de se passer. Donc, je vais avoir la semaine prochaine une leçon de réchauffement climatique dans ma petite maison pas loin d'ici, où Pierre Chevalier va venir de Montpellier, et ils vont m'expliquer comment ils mettent les capteurs dans les Andes et dans l'Himalaya, pour voir comment tout ça fond, et quelle est la répercussion de la fonte des glaciers sur le régime des fleuves. Je vous indique que 45 à 47% de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend de l'Himalaya. Donc, ce sont des questions qui, évidemment, me passionnent. Donc, eau et réchauffement climatique, eau, évidemment, et sécheresse, je vais en dire un mot tout à l'heure. Alors, je suis pas membre encore de la FES, c'est ça?
La FES.
Oui, eh bien, écoutez, si je peux participer, eh bien, avec grand plaisir. Parce que, évidemment, quand vous traitez l'eau, vous êtes obligé de réfléchir à l'agriculture. Et de savoir quelle est l'articulation de l'eau et du sol, ce que vous avez dit m'a absolument passionné, et de voir les questions d'eau virtuelle, les questions d'efficience de l'eau, est-ce qu'il faut dire que le maïs est de la saloperie ou non, enfin ce genre de questions qui, moi, me ravissent évidemment, de néophytes, et évidemment eau et politique, puisque si l'eau est le grand solvant chimique, c'est aussi le grand agent à la fois de conflit et de rassembleur des êtres humains. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous donner quelques petits exemples de ma promenade, pour être exactement dans la ligne de ce qui avait été défini. Alors, j'ai pris une première leçon de pluie au Sénégal, parce que le président Ouad, qui est un homme un peu imprévisible, mais qui a des grands éclairs de volonté, dit « j'ai des nuages et j'ai pas de pluie, comment je fais ?» Donc, il s'est mis d'accord avec les Marocains. Alors, ils ont 2-3 avions, et puis ils ont des chauffeurs, des brûleurs qui mettent à l'endroit où il y a la pluie. Ils regardent un peu les nuages, et puis quand il y a un nuage qui arrive, alors ils allument, ils mettent des petites montées comme ça de iodure d'argent, et puis il y a des petits avions, des Fuga Magister 2-3 qui décollent de Dakar, et puis ils saupoudrent. Et ils ont cette formidable expression, ils disent « ils ensemencent les nuages ». Alors j'ai demandé à mes copains de la météo si ça marchait. Non. Non. Enfin, c'est sympathique. Donc j'ai pris une leçon de pluie et j'ai appris que s'il n'y a pas des éléments fédérateurs, eh bien ça ne marche pas. J'ai appris la nécessité d'avoir des gouttes de pluie d'une taille suffisante pour que ça puisse tomber. J'ai appris le mécanisme de haut, de bas. J'avais l'impression d'être exactement une sorte d'élève de SVT. Et j'avais Jean Labrousse, qui est l'ancien patron de la météo, qui me racontait comment ça montait, ça descendait, et me disait, écoute, on est désolé, mais si tu vois le président Ouad, tu lui diras que... Enfin, tu lui diras rien, parce que si tu lui dis que ça ne marche pas, il ne sera pas du tout content. Donc, promenez au Sénégal, essayez de prendre, mais sur le motif, comme disent les peintres, une leçon, première leçon de pluie. Deuxième étape d'un long voyage, l'Australie. L'Australie est un endroit très intéressant parce que c'est un endroit désertique à part les franges, principalement est, sud-est, et c'est un pays riche. C'est un pays qui gaspille énormément d'eau, mais c'est un pays qui est en train de souffrir d'une sécheresse terrible, avec à la fois le réchauffement global, avec les éléments cycliques du Niño, et comment est-ce qu'on fait? Alors, ma question là, de pédagogue, et de dire comment je fais comprendre, à partir de ces faits, comment je fais comprendre la réalité de la sécheresse en Australie. Et c'est ça qui m'intéresse. Je suis dans la même situation que vous, enseignants, avant d'entrer en cours. Je me dis comment je vais faire comprendre. Et par les hasards et puis un peu d'obstination, j'ai découvert une personne incroyable qui a un lien avec l'École normale supérieure. C'est une personne qui a commencé par passer une thèse qui était normalienne, qui a commencé à faire passer une thèse sur les images érotiques dans la littérature de Klosowski. La directrice de thèse était Julia Kristeva. Parfait. Et elle en a un petit peu assez de faire ça, et elle décide d'être photographe. Grand succès. Elle organise, on l'invite à une grande manifestation à Sydney. Elle rencontre une femme dont elle tombe folle amoureuse. La femme est à la fois sculpteur et éleveuse. Et donc, cette normalienne se retrouve à co-diriger un élevage de vaches et de taureaux Angus qu'elle vend soit pour reproduire dans le monde entier, soit à Tokyo, enfin au Japon. Donc, et le problème de son élevage, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Donc comment ils se font avec l'eau ? Donc j'ai mon personnage, j'ai le lieu de son élevage où j'ai été, je raconte rapidement son histoire de normal, je vois l'application de la méthode normalienne et de la sémiologie à l'élevage de vaches Angus, qui est quand même un transfert de technologie qui m'intéresse, etc., etc. Donc j'ai une première histoire sur la sécheresse. Je vois ses réservoirs. Je me dis, vous avez le droit de réserver. Ah oui, si c'est tant, comme ça. Et puis, non, on n'a plus le droit de réserver. Et je vois notamment une question extrêmement intéressante de gestion de la sécheresse en Australie, puisque avant, c'était les États qui s'occupaient de ça, les régions, si vous préférez. Maintenant, c'est Canberra qui a repris ça en main, et parce que, voilà, il y a une vraie rareté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une articulation entre une reprise en main par l'État central, avec un mécanisme d'allocation des ressources rares extrêmement intéressant, parce que chaque paysan, éleveur ou non, a une dotation correspondant à sa surface, et s'il dépasse sa dotation, marché libre. Ce qui m'a obligé à trouver un autre exemple, et l'autre exemple, c'est le premier exportateur de vin d'Australie, qui est français, qui s'appelle Pernod Ricard. Pernod Ricard, il faisait des vins relativement bas de gamme, comme le prix de l'eau monte, il est obligé de monter en gamme et de monter dans les étages physiques de production, c'est-à-dire dans des endroits un peu plus frais, pour dépenser moins d'eau, pour vendre un vin de meilleure qualité, espère-t-il, de plus en plus cher, pour compenser. Vous avez deux personnages. Il était une fois une normalienne éleveuse, il était une fois l'exportateur français de vin australien. Et petit à petit, concrètement, vous voyez ce qu'il en est de la sécheresse en Australie. Autre exemple, le Bangladesh. Alors, le Bangladesh, comment raconter le Bangladesh ? Comment raconter le Bangladesh ? Qui est quand même, on voit ce qui se passe en Asie en ce moment, et je le sais d'autant plus en frissonnant un peu, c'est qu'il y a exactement 10 jours, j'étais à entre 50 et 60 kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre. J'étais donc au bas de l'Himalaya, entre Chengdu, à Dongjiangyang, à tous ces endroits-là. Et donc, bon. Et donc, comment raconter cette histoire ? Par des réseaux extrêmement divers de régatiers, j'ai pu rejoindre une ONG qui apporte des soins médicaux dans les endroits du Haut Brahmapoutre où il n'y a personne. Avec un type hallucinant, ancien steward d'Air France, qui est navigateur, mais il ne supporte de naviguer que sur une seule embarcation, la péniche. Donc il prend une péniche et il traverse l'Atlantique. Mais comme il est dans les milieux de l'aéronautique, il a des routeurs pour essayer d'éviter quand même les dépressions trop fortes. Il découvre à Dunkerque, et vous allez voir le détour, il découvre à Dunkerque une bonne vieille péniche Fraissinet qu'on allait casser, il dit, il n'est pas question. Il la transporte à Fos-sur-Mer et il s'apprête à prendre le large. L'administration dit, vous êtes fou là, on pas la mer avec cette saloperie de truc. Il dit, très bien, il appelle un copain à lui pour toutes sortes de raisons, qui était le fils du chef d'État de Sao Tomé, qui lui dit, eh bien maintenant, cette péniche, elle n'est plus de Dunkerque, elle est de Sao Tomé. Il trouve, il a, évidemment, aucun des marins veut venir avec lui, donc il trouve un mec qui passe par là, il le trouve sympathique, il l'embarque, et au bout de 5 jours, au milieu de la Méditerranée, il lui dit, mais t'as jamais fait de mer, toi, quand même, je voulais pas trop te dire, parce que je voulais pas te blesser. Il dit non, et qu'est-ce que tu faisais avant? Je sors de 20 ans de centrale. Il arrive avec sa péniche, il va jusqu'au Bangladesh, quand même, il remonte, il fait des travaux, et cette péniche est maintenant, sur le haut Brahmapoutre, un hôpital flottant qui accueille tous ces gens qui n'ont aucune sorte de soutien médical dans le haut Brahmapoutre. Pourquoi? Parce que dans le haut Brahmapoutre, il y a cet endroit extraordinaire qu'on appelle les îles nomades, c'est-à-dire que ce sont des îles qui sont tous les 2 ans, 3 ans, complètement ravagées par des inondations. Donc j'avais le personnage, j'avais le lieu mobile, et avec lui, j'ai travaillé, enfin, essayé de raconter ce que c'est que la situation de ces gens du Bangladesh aux prises de l'eau. Parce qu'ils ont les inondations, mais dans les inondations, un seul exemple, 2 exemples. Ils ont des inondations invraisemblables, ils perdent tout. Bon, et puis, si tout va bien, ça revient. Mais le type qui ne paye pas sa taxe sur la terre qui est sous l'eau, si la marée baisse d'eau douce, et la terre revient, s'il n'a pas payé sa taxe, il n'a plus sa terre. Donc vous voyez le mec qui a payé, qui regarde, et alors tu reviens toi. 2e exemple. Quand il y a une inondation, ils se réfugient sur les toits. Ils n'ont plus rien, ils se réfugient sur les toits des 2 maisons qui sont un peu solides. Mais il n'y a pas que qui se réfugient sur les toits. En général, il y a les serpents qui viennent aussi se réfugier sur les toits. Donc vous voyez, c'est des gens formidables. Ils sont dans une situation extraordinaire. Vraiment, bon. Plus des tas d'autres histoires. Et en étant avec ces gens, de l'histoire de ces personnes, vous avez l'histoire des inondations. Vous avez évidemment l'histoire par le bas des cyclones. Vous avez en même temps l'histoire du captage d'une partie des eaux du Gange par les Indiens qui ont fait un barrage juste avant l'entrée dans le Bangladesh. Ce qui fait que le flux du Gange est moins fort, ce qui fait que l'eau salée du golfe du Bengale a tendance à remonter, ce qui fait que les paysans, non seulement ont moins d'eau pour leur rizière, d'eau douce, mais en même temps, il y a une salinisation croissante, sans compter la montée de la mer à venir, croissante de l'eau, donc c'est un peu difficile de cultiver du riz dans le sud-ouest du pays, ce qui fait que les réfugiés dits climatiques se multiplient, et j'ai vu l'adjoint au maire de Calcutta qui me disait, écoutez, vous avez vu la situation de la ville, on est déjà 15 ou 18 millions, qu'est-ce que je peux faire si les gens du Bangladesh arrivent, s'ils sont 15, 20 ou 30 millions? Et pour agrémenter encore la situation, quand vous creusez un puits, puisque vous ne pouvez pas utiliser l'eau de surface ou qui est trop turbide ou qui est totalement pollué, quand vous creusez un puits, vous avez une chance sur deux pour avoir de l'arsenic. Donc vous avez le choix, ou vous vous empoisonnez tout de suite, ou vous empoisonnez à plus long terme avec l'arsenic. Donc, raconter une histoire au Bangladesh, il y a des lieux où il n'y a pas assez d'histoire, au Bangladesh, il y en a trop. Et là, j'ai pris ma 2e leçon de pluie. Pourquoi? Alors, pour un Breton qui pensait que déjà la pluie, elle avait pas mal ruisselé sur sa calvitie. Donc, on est à Brest à 850 mm. Et j'ai pris une 2e leçon de pluie, et sur place et à Paris, Cherrapunji, 12,50 m. Bon, ça c'est de la pluie, et donc maintenant quand les Bretons me disent « il pleut », non. Il bruine, à peine. Donc, j'ai été en Chine, et cet exemple breton, il faut toujours trouver les réseaux pour faire entrer une histoire dans la tête des élèves ou pour faire accepter à quelqu'un que vous êtes un interlocuteur. C'est pareil. Et j'avais eu le privilège d'être invité à rencontrer le patron de toute l'eau en Chine, Er Kunggao. Tout. Et on m'avait dit, il a 20 minutes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, par hasard, il m'a dit qu'il avait voyagé un peu en France, etc., et qu'il s'était intéressé aux questions de l'eau et il était fasciné par notre régime des eaux. Brutalement, je lui dis, ben voilà, je suis breton, et je raconte ça, 850 mm, et puis une sorte de régularité. Et que quelqu'un vienne d'un pays où il y a une régularité, où il y a de l'eau tout le temps, et où, en gros, l'ensemble du territoire reçoive de l'eau, ça lui semblait inouï. Inouï. Lui, c'est en gros 50% du territoire au nord, avec 50% de la population et 20% d'eau. Alors, il me dit, mais comment c'est possible un pays comme ça, aussi tranquille ? Et il est tellement pris par cette fascination de rencontrer quelqu'un des pays tempérés, qui m'a gardé 3 heures. Son assistante était folle, comment ça se passe, mais non, c'est pas possible. Il disait, non, reprenons. Et alors, vraiment, il pleut que 830 mm, et serré. Et en août, il peut pleuvoir chez vous ? Oui. Et en octobre, oui, mais je vous assure qu'il pleut à Brest presque tous les jours. Ah, mais ça, c'est pas possible. Et donc, je salue Brest et les Brestois, c'est grâce à eux. Dernier point, je voudrais pas être trop long, mais tout ça pour vous dire que... En tant que, vraiment, je me sens, en écrivain, exactement comme le professeur, je le redis, qui cherche la porte par laquelle l'histoire va permettre de s'incarner dans un mécanisme. Donc, dès qu'il y a « Il était une fois », ça commence, la porte s'ouvre, et on dit « Cette histoire ne m'est pas étrangère. Je suis concerné, je vis cette histoire. » Dernier point, avec Maroc. Je suis resté une semaine dans le bled marocain, je dirais à 150-160 km au nord de Marrakech, dans une sorte de grande plaine, qui s'appelle le Tadla, et j'ai vu comment ça se passait. La situation est claire. Il y a évidemment un besoin de production et pour les villes et pour l'exportation, et il y a de moins en moins d'eau, puisque les barrages en reçoivent moins, donc quand ils distribuent moins, que les villes sont plus prenantes. Imaginez ce que c'est que la demande d'eau d'une ville comme Marrakech, ce que ça veut dire, quelle pression. Donc, on trouve une solution pour pomper sur la nappe. Laquelle nappe descend, selon les années, de 1 à 3 mètres. Et comme on fait, il y a des forages sauvages. C'est des forages qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils utilisent principalement des moteurs de R21 qu'ils alimentent au gaz butane, parce que le gaz butane est subventionné. Pas du tout pour forer illégalement, mais pour... Voilà, donc ça pompe, et voilà. Ce qui veut dire que vous avez là, en réel... Concrètement, en racontant la vie du village, des associations qui s'unissent pour essayer de passer à l'irrigation localisée, principalement le goutte à goutte, comment ça fonctionne, combien ça coûte, quelle va être l'efficacité, comment ils vont être obligés de changer de culture. Vous avez concrètement ce que c'est que la guerre de l'eau. La guerre de l'eau dont j'avais eu une illustration extrêmement douloureuse en restant 2 jours à Alger, où mes interlocuteurs m'avaient fait rencontrer 5 femmes qui toutes me racontaient ce que c'était que vivre dans une ville avec une famille et d'avoir de l'eau très rarement et ne pas savoir quand elle arrive. Et j'ai demandé à une femme, c'est quoi pour vous l'eau ? Et elle me dit, l'eau, c'est la grande peine. Et imaginez ce que c'est. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça si vous travaillez sur dossier. Vous arrivez dans un premier appartement, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et partout, vous voyez des bidons. Et les appartements sont tout petits à Alger. Et les familles sont grandes. Et pourquoi vous avez tant de bidons ? Ben, dès que l'eau coule, on met des bidons. Partout. Et on dit, mais ça commence à s'améliorer, il y a eu des investissements, il y a des usines de dessalement, tout ça, etc. Vous commencez pas, vous avez pas enfin confiance, vous ne pouvez pas avoir un peu plus d'espace dans votre salon, dans votre cuisine, dans la chambre où il y a trois enfants avec des bidons partout. Ils disent, confiance, ma cache. Ce qui veut dire que c'est cette manière de, comment dire, de mettre en scène ou d'incarner ou de raconter, pour moi, est inséparable de mon travail de romancier. Et je pense que de plus en plus, je vais travailler en mélangeant les deux. Évidemment, j'aurais pu faire ce livre sur l'eau en travaillant sur les dossiers et sans voyager, mais la découverte sur place, comme j'ai cette chance de pouvoir le faire, me semble absolument irremplaçable. Alors, je saurai deux, trois petites choses sur l'eau en rentrant. Ce que je peux vous dire de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, en travaillant quand même depuis longtemps sur les matières premières, c'est qu'il y a une seule vraie rareté. C'est la rareté de la terre, la rareté de la terre arable. Et que la rareté contre laquelle, donc c'est pour ça qu'il faut rejoindre et militer pour la fesse, c'est que cette question-là est une question absolument cruciale. Et comment va-t-on nourrir 9 milliards de personnes avec une terre arable qui diminue par l'érosion, l'urbanisation et la pollution? Je ne sais pas. Donc tout ça pour vous dire qu'on se promène. On peut être considéré comme voilà, une sorte de touche-à-tout. Et petit à petit, des choses graves sont révélées. Je vous remercie.
C'était donc Éric Orsenna de l'Académie française qui intervenait à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris dans le cadre d'un séminaire national. Et il parlait des problèmes liés au climat et nous sensibilisait aux questions de l'eau.